Vortex et rotative.
L'émission où l'on vous parle de nos livres de science-fiction préférés.
Sur Radio Dragon et Campus Grenoble.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes à l'écoute de Campus Grenoble 90.8 et Radio Dragon 104.4 et 96.8.
Aujourd'hui, on va vous parler du roman « Le premier jour de paix » d'Elisa Bayram, paru en 2023 aux éditions de l'Atalante. Elisa Bayram est née en 1990 dans le Midi. Elle s'est fait connaître en tant qu'autrice de science-fiction en 2020 avec son premier roman Rêveur Zéro. En 2023, elle publie son deuxième roman Le Premier Jour de Paix, qui a été retenu notamment dans la sélection du prix Utopial et qui est notre sujet aujourd'hui. Son troisième roman Dessous Concagna paraît en 2025, comme les précédents chez l'Atalante. Tout en traitant des sujets bien lourds comme la destruction de la planète à coup de surexploitation de ressources et des pandémies, Elisa Bayram s'inscrit dans une écriture de SF positive, dans le sens qu'elle propose toujours des regards d'espoir sur les futurs possibles. Elle travaille aussi en tant que scénariste pour des jeux vidéo et elle participe activement au débat dans les milieux de la SF francophone, par exemple par sa participation répétée au Festival des Utopiales et des Intergalactiques. Actuellement, elle travaille sur son quatrième roman qui renouera avec l'univers du premier jour de paix qu'on va vous présenter maintenant.
Le premier jour de paix est un roman dont les différents chapitres racontent des histoires distinctes et construisent une sorte de portrait de la Terre dans un moment de recherche de paix globale. Les bouleversements climatiques ont rendu la grande majorité de la planète totalement invivable et les guerres ont décimé les humains et pas mal d'autres espèces vivantes. La planète est divisée en quatre grands territoires, les Jiti, qui se disputent des frontières. Dans ce contexte, ce roman raconte comment des personnes essayent de construire la paix à différentes échelles. Au sein d'un village isolé où plusieurs groupes s'entretuent, entre deux villages en conflit pour une source d'eau, entre les enfants d'une grande ville dont le conflit est monté en violence, entre les représentants des grands territoires, ou depuis le point de vue d'extraterrestres et du pacte galactique.
Dans le premier jour de paix, Elisa Bayram déploie un imaginaire post-apocalyptique au premier regard assez classique. La Terre est dévastée, les espaces habitables sont de plus en plus limités, partout ça se dispute les rares ressources qui restent, et les conflits éclatent de tous les côtés. On pourrait s'attendre à un scénario du style « un groupe isolé de gentils se bat contre des méchants qui ont pris le pouvoir ». Comme on en voit pas mal dans les romans, séries et films de ces dernières années. Mais Elisa Bayram nous propose autre chose. Au cours du roman, on apprend que les guerres climatiques et les grands exodes ont été suivis par l'époque de la Grande Réconversion, qui a vu la création des forces de la paix et la formation d'émissaires mandatés pour aider les communautés à sortir de la violence.
Un master en résolution de conflits, la fierté de mes parents. Mais si j'ai pu entrer à Jacques Log, je ne m'en cache pas, c'est surtout grâce à mon statut d'apatride de naissance, qui ouvrait à l'époque pas mal de portes, en particulier dans les cursus d'irénologie. Aujourd'hui, nous sommes plus nombreux encore à nous sentir apatrides. Apatrides, peut-être, mais nous avons les étoiles.
Il y a donc au moins une partie de l'humanité qui a compris que pour survivre, il faut faire la paix. L'irénologie étant bien la science de la paix. Et ça au niveau mondial. Dans cette pensée de la paix, ce qui unit, c'est l'humanité, et non pas la nation ou une soi-disant appartenance raciale. Les humains sont pensés comme un groupe, ce qui permet de travailler à des solutions communes pour toute la planète et nous fait sortir de toute pensée nationaliste. Dans le roman, on suit Esfir, une émissaire expérimentée. Elle sillonne le monde pour aller dans des villages qui n'arrivent pas à sortir de l'engrenage des conflits violents. Parfois, sa simple présence permet de discuter avec plus de recul. Parfois, elle a des techniques pour rassembler les parties opposées à trouver des solutions ensemble.
Gratter délicatement la surface et laisser les émotions, les acteurs, les enjeux se dévoiler. Un conflit n'est jamais simple, surtout lorsqu'il en a l'air. Il me semble que cette pénurie d'eau touche tous les habitants, tu ne crois pas ? Generoso partit à grande enjambée vers la porte et fit sonner une cloche, 3 fois. Après quoi, il revint s'asseoir à la table. Est-ce que tu détestes vraiment Divine ? Pas plus qu'un autre. Je sais qu'au fond nous sommes pareils, que nous avons les mêmes besoins. C'est ça le problème. Nous avons tous les mêmes fichus besoins. Et quand le point de non-retour a-t-il été franchi ? Quand ils ont attaqué le figuier pour trouver sa source d'approvisionnement. C'était il y a environ 1 mois. Et qu'est-ce qui aurait pu être fait à ce moment-là ? Laisser ce maudit figuier tranquille ? Quelques habitants s'étaient glissés sans bruit dans la maison, formant un arc de cercle respectueux autour de la table. L'une d'entre eux, la première, avait osé libérer la parole. On aurait pu partager les figues aussi. Même en conserve, elles contiennent un peu d'eau. Ils n'avaient que des aliments secs, et on le savait, normal qu'ils soient devenus fous. On aurait même pu partager un peu de nos réserves. On avait encore un fond de cuve à l'époque. Et surtout, on aurait pu dépenser notre énergie à chercher de l'eau ensemble, au lieu de la gaspiller à se tirer dans les pattes.
Ce qui est vraiment agréable à la lecture, c'est que le récit contient plein de petits et grands exemples mettant en valeur plutôt le partage et l'entraide que le droit du plus fort pour la survie. Il y a toujours de l'espoir, et c'est aussi le cas quand Esfir se retrouve coincé dans un paysage désertique à la suite d'une panne de moto.
Il ne fallait pas se mentir. Les chances de mourir ici existaient. Mais les chances de s'en sortir étaient plus grandes. Elle le savait car elle avait déjà vécu cette situation une bonne 20aine de fois. Et tandis qu'elle les recomptait sur ses doigts, elle se rassurait en puisant à la chaleur humaine issue de 50 ans de souvenirs. Tous ces moments où l'espoir avait surgi dans la dernière extrémité de la détresse, sous la forme d'un visage, d'une main tendue, d'une pétarade de moteur. Quelqu'un finissait toujours par passer, et quelqu'un ne laissait jamais une sœur mourir sur le bord de la route. Pas vrai ?
Malgré ce regard plutôt optimiste, ce n'est pas pour autant qu'il existe toujours une solution qui convienne à tout le monde. L'état catastrophique de la planète, la raréfaction des ressources, tout ça crée des impossibilités qui ne laissent pas toujours de place pour des happy ends. Si le but est le bien commun et le partage, il faut quand même faire des concessions. Ce qui veut dire que parfois, les émissaires n'ont pas d'autres options que d'inviter les gens à quitter leur terre ne permettant plus d'y survivre.
Avez-vous réenvisagé l'exode ? Partir, mais c'est encore la guerre. Plus tant que ça. Et pour aller où ? Au nord-est, il y a des terres fertiles. Assez pour accueillir une commune comme la vôtre. Comment survivrions-nous au voyage? Sans moyen de locomotion, c'est un long exode, et difficile. Mais le chemin est usité. Il suit une ancienne autoroute, impossible de se perdre. Et de courageuses équipes tiennent bon, à l'arrière-garde, pour approvisionner les voyageurs. Les points d'étape sont encore bien disséminés sur la route. Je pourrais vous les indiquer. Sans eau, avec les malades et les vieillards, nous ne parcourrons pas 100 mètres. En combinant vos ressources avec celles du village d'à côté, vous auriez une caravane solide. Comme si Divine allait accepter un tel marché. Parlez-en avec elle. Vous pourriez être étonné, qui sait. Vous êtes moins ennemi de vos voisins qu'esclave de votre soif. Vous l'avez oublié, mais il y a d'autres besoins élémentaires que celui d'alimenter son corps. Ne vous interdisez pas de parler de départ sous prétexte que vous avez décidé de rester il y a 2 ans de cela. Vous savez comme les environnements changent, et surtout se dégradent vite. Nous sommes loin d'en avoir terminé.
Le parti pris pour la paix, dans ce roman d'Elisa Beram, représente un contraste très bienvenu à l'heure où les guerres et l'armement à tout va semblent être la stratégie en vogue pour défendre des intérêts économiques et géopolitiques particuliers sous prétexte de défendre un soi-disant monde libre. Malheureusement, dans tout ça, l'autrice se laisse aller parfois à des argumentations un peu simplistes ou ambiguës, et la lecture a soulevé pour nous tout un tas de questions qu'on va regarder de plus près dans la suite.
Effectivement, préparer cette émission nous a amené plus d'hésitations que pour d'autres romans. On a vraiment aimé ce livre et, en même temps, il y a pas mal d'endroits où il a soulevé des doutes ou des critiques. Par exemple, on a senti qu'Elisa Beram voulait parler de plein d'endroits dans le monde et présenter des personnages qui viennent d'horizons variés. Mais on a aussi trouvé que ces représentations étaient parfois stéréotypées, voire stigmatisantes. Le premier chapitre est particulièrement questionnant. Il présente un conflit à l'intérieur d'un village colombien où plusieurs groupes armés s'affrontent et s'entretuent. Et j'ai trouvé cet imaginaire exotisant et stigmatisant qui joue sur des clichés.
La violence ici, c'est une tradition. On y met beaucoup de ferveur. Mais moi, je crois plutôt que dans la reproduction de ces schémas destructeurs, il y a une certaine abdication. C'est une tragédie à l'échelle d'un peuple. La violence n'est pas une hérédité, mais un héritage dont il est certes difficile de se défaire. Tout de même, n'est-ce pas ironique? Faut-il que nous profitions des conditions idéales à la vie pour la massacrer sans vergogne? Crois-tu qu'il aurait fallu connaître l'exode, le vrai, pour changer réellement au fond de nous, pour devenir ou redevenir humain? Quel est ce mal qui nous ronge?
En plus, une partie de cette violence est héritée de violences politiques contre une bourgeoisie coloniale. Mais elle est racontée dans l'histoire comme une violence quasi gratuite ou sans fondement. Elle présente le peuple comme quasiment incivilisé, comme s'il n'avait pas eu des bonnes raisons de se révolter.
Alors on est descendu, sur Medellín d'abord, et on est essayé par les belles villas de l'Oriente Cercano, par la ceinture verte du jardin Circunvalar, par les immeubles chics et élancés, tous ces trucs qu'ils avaient construits pour rendre la ville attractive, dépolluer et chasser les pauvres. On a tout souillé. Avec pas mal d'enthousiasme, je dois dire, on a rappelé aux commandants complices à quel point leur argent était sale. Mais ça ne nous a pas sauvés non plus. Alors, on est reparti. Quand on est arrivé sur la côte, les gens ne nous ont pas vus d'un bon œil. Mais personne ne pouvait refuser le pain aux voyageurs affamés. Seulement, une fois le voyageur rassasié et installé, il avait pris ses aises et enraciné ses vieux travers, ses petites manies dévastatrices.
Cet imaginaire de la violence gratuite revient régulièrement dans le roman et révèle, selon moi, une vision selon laquelle toute violence se vaudrait, que, dans l'optique de la paix, la violence serait nécessairement mauvaise. En fait, Elisa Behram aborde parfois, mais trop rarement à mon goût, la question de la justice sociale, ou par exemple le fait que des dominants ont toute la légitimité d'exercer leur violence, notamment pour exploiter ou pour réprimer les dominés.
Toutes ces institutions, ces belles constructions humaines, avaient créé et pernicieusement entretenu la violence pendant des siècles, pour condamner ensuite celles qu'on leur retournait. Elles avaient été la solution en même temps qu'elles étaient le problème. Elles avaient promu la paix en faisant la guerre, condamné le système en l'embrassant à pleine bouche, collé des pansements sur des blessures béantes.
Elisa Behram souligne à plusieurs reprises que la question de la pénurie de ressources provoque des conflits. Mais elle dénonce très peu le fait que des gens s'accaparent ces ressources. Aussi, à plusieurs reprises, la guerre est associée à l'arrivée massive de réfugiés. Bon, ce qui peut être réaliste si on pense à la montée des violences racistes et nationalistes. Mais franchement, l'association d'idées est bien foireuse et elle renforce les imaginaires d'extrême droite.
Ce n'est pas ce que je voulais dire. Il y a aujourd'hui encore de larges bandes habitables dans le centre et le sud de l'Afrique. Pas assez pour contenir l'explosion démographique du siècle. Et puis, tout était pillé, ravagé depuis si longtemps. C'est la guerre, pas le climat, qui nous a fait partir. D'abord, mes parents ont essayé d'aller en Afrique du Sud, plus proche, physiquement et mentalement. Il fallait traverser davantage de pays dévastés par les conflits, certes, mais ce n'était pas le désert, ce n'était pas l'océan. Le problème avec l'Afrique du Sud, c'est que c'était non seulement trop petit pour accueillir tous les réfugiés, mais que ça s'est encore rapetissé.
Ce sentiment est aussi renforcé par des passages qui sous-entendent que les différences culturelles provoquent des conflits, ce qui est quand même très réactionnaire. Et en même temps, dans le récit, cette idée est historiquement dépassée.
Il y a 25 ans, cela aurait été impensable. Mais constatons l'état des choses. Au sein même des GT, des populations d'origine et d'opinions disparates partagent des territoires grands de dizaines de millions de kilomètres carrés, sans que cela ne provoque de conflits d'envergure.
Un autre passage qui nous a laissé dubitatif, c'est quand America, une négociatrice, se rend dans un asile en tant que bénévole alors qu'elle se questionne sur sa propre folie. Le passage tombe un peu de nulle part et crée des images stéréotypées. Heureusement, le paragraphe finit par décaler les idées reçues. Quand America fait péter les plombs à un pensionnaire, c'est son comportement à elle qui est dénoncé.
Aussitôt, le temps monta, mais étonnamment, la colère n'était pas dirigée vers Nonon. « Qu'est-ce que tu lui as dit ? Je ne l'ai jamais vu se comporter de la sorte !» Sonnée d'avoir à se justifier, les cordes vocales déformées en des angles insoupçonnés, America ne parvint qu'à sortir un gargouillis d'excuses. Je vais laisser une note à l'association des bénévoles. Je te déconseille de revenir ici. On a besoin d'aide, pas de problèmes supplémentaires. America se fit escorter vers la sortie avant d'avoir pu exprimer la moindre objection et se retrouva seule sur le perron, décontenancée, incapable de bouger, tandis que le sang lui refluait à la tête, aidé par des flots de honte.
Sur plusieurs aspects, le roman Le premier jour de paix peut sembler un peu naïf. Et bon, si on lit le roman avec précision, les imaginaires problématiques sont en général controversés, comme on l'a entendu avec ces différents exemples. Mais ces contre-pieds sont certainement trop rapides pour arriver à nous défaire complètement d'un sentiment de facilité. Vous êtes toujours à l'écoute de Vortex et Rotative sur Radio Campus Grenoble ou Radio Dragon.
Aujourd'hui, on vous parle du roman Le premier jour de paix d'Elisa Behram.
un des bouts vraiment chouettes avec le roman « Le premier jour de paix », c'est qu'il met en scène des personnages qui font des erreurs, qui pensent leurs responsabilités, qui ont aussi parfois des réactions déplorables ou qui doutent de leurs choix ou de leurs actes. Les personnages sont bien décrits dans leur complexité et leurs incohérences. Le roman comporte aussi beaucoup de dialogues et met en scène des désaccords entre des personnages sans complaisance ni évidence.
Pourquoi les humains s'obstinent-ils à s'agglutiner de la sorte ? Il y a des logements libres, de quoi se nourrir, s'occuper, s'enivrer. C'est plus facile que de tout reconstruire de zéro. Les villes sont une erreur que nous avons répétée trop de fois, une aberration en matière d'acheminement et de consommation des ressources, et une déshumanisation des contacts. Tu sais que les groupes perdent en efficience au-delà de 150 individus, les relations de confiance se tarissent, la communication interindividuelle baisse, et le ciment de la communauté s'effrite. Tu parles de bel horizon comme d'une mégalopole. Au contraire, chaque nouveau quartier est réfléchi pour être en autonomie alimentaire et énergétique, sans pour autant finir en autarcie sociale.
Dans ce roman, les personnages font aussi preuve d'une certaine humilité. Yel n'ont pas trop d'orgueil et restent souvent critiques des positions de pouvoir dont Yel pourrait bénéficier, notamment dans le rôle d'émissaire.
Dès que la présence d'Esphir avait été annoncée, de tout petits enfants s'étaient rués sur elle en glapissant à qui mieux mieux. Esphir n'aimait pas cette manière de sacraliser les émissaires dans la tête des plus jeunes. Cela donnerait immanquablement des gens peu doués de raison et prêts à gober toutes sortes d'inepties, pour peu qu'elles sortent de la bouche d'un émissaire.
Esphir critique aussi parfois les manières de faire d'autres émissaires, et en même temps elle est assez blasée ou désabusée par ce qu'il se passe dans le monde.
Je vais vers le nord, mais pas pour résoudre des disputes. Je reçois de moins en moins d'appels à l'aide. C'est plutôt bon signe, non ? Ça veut dire que vous avez bien fait votre boulot, vous, les émissaires. C'est quoi la phrase, déjà ? Qu'un million d'entre nous SM pour qu'un milliard de plus apprenne. Comme tu vois, je n'SM pas grand-chose présentement. Et je crois même que dans les prochaines minutes, j'aurai plus à apprendre de toi que l'inverse.
Mais même quand l'autrice met en scène le dépit vis-à-vis des comportements humains, elle sait le faire avec une certaine forme d'humour. Comme quand elle développe le concept de la « paix par le balèque ». Ou comme dans cette scène où elle aborde la question de la destruction de l'environnement.
Aujourd'hui, on aurait aussi bien pu se trouver sur Mars. Tout en suivant du bout des doigts avec admiration le tracé du sillon laissé par l'eau dans la Terre, Esphir songeait aux ambitions qu'avaient un jour eues les humains pour la planète rouge. Comment avait-on pu envisager de terraformer un monde lointain et glacial, alors qu'on ne s'était montré capable que de déterraformer le seul qu'on avait ? Parmi les choses que j'ai beaucoup aimées dans Le premier jour de paix, il y a aussi le langage standard universel, ou l'UNI, qu'Elisabeth Ram a imaginé.
Loin d'être unifié, c'était au contraire un dialecte multiple, fluctuant dans l'espace et le temps, mais grâce auquel les humains avaient réussi à dépasser le carcan de leurs origines éclatées pour communiquer durant les grands exodes.
Il ne s'agit donc pas du tout d'une langue universelle qui serait la même partout, mais plutôt d'un langage aux contours fluides dont l'objectif est de pouvoir communiquer et se faire comprendre, et non pas de définir et encore moins de célébrer une unité culturelle et nationale. Il est basé sur le vocabulaire plutôt que sur une grammaire complexe. Tout le monde est amené à apprendre les concepts les plus courants dans au moins deux autres langues que sa langue première, lesquelles, ça dépend de l'entourage ou de la région, et ça finit par créer
une espèce de soupe que tous semblaient comprendre.
Par ailleurs, Elisabeth Ram évoque aussi la place importante que prennent les langues impérialistes dans cette pratique, comme le castillan ou l'anglais. Et elle met aussi en scène comment cette langue, soi-disant universelle, concept en soi assez critiquable, est utilisé par certains dirigeants des grands territoires pour pousser ou invalider des aspirations nationalistes. Ce n'est donc pas une idée complètement naïve, une langue magique qui ferait que tout le monde s'entend, mais plutôt un outil pragmatique, avec ses avantages et ses limites, pour aider à se rapprocher et à développer des solidarités. Et c'est comme ça, par exemple, que l'émissaire Esfir peut facilement communiquer avec un jeune qu'elle rencontre sur la route.
Ton uni est strange, bizarre. Je comprends tout ce que tu dis, ne t'en fais pas, mais je dois ajuster mon langage à chacun de mes déplacements. Alors, il me faut toujours un petit temps d'adaptation. L'uni est un peu différent ici et 50 km plus loin, mais même si tu en parcourais 1000, tu arriverais à te faire comprendre. Oui, oui, je connais le principe. Tu apprends bien tes alternatifs ? Toujours au moins 2 ou 3 pour chaque concept, mais c'est un peu dur des fois. Beaucoup de mots et puis la motivation n'est pas trop là. Comme chez nous, on parle tous pareil.
Une chose qui m'a laissé un peu perplexe dans le roman, c'est le rôle des extraterrestres. Ils tirent les ficelles des négociations de la paix sur la Terre. Seuls quelques initiés sont au courant et un fou ressent leur existence. Tout ça, c'est vraiment chelou et pourrait carrément alimenter des imaginaires complotistes. Mais au final, l'autrice fait vraiment preuve de pas mal d'humour à cet endroit et ça amène une certaine légèreté et ouvre l'imaginaire. Le personnage de l'extraterrestre qui s'occupe du dossier de la Terre, par exemple, est un employé de bureau qui se sent enfermé dans cette vie grise et ennuyeuse régie par des règles bureaucratiques du pacte galactique. Et par ailleurs, les humains ont carrément un fan club parmi les aliens qui en discutent vivement sur leurs réseaux sociaux avec leurs interprétations propres de certaines pratiques qui peuvent être très drôles.
Vous avez vu dans le Pacifique Nord ? Un îlot autonome a de nouveau été dévasté par les éléments. À ce rythme, ils auront tous sombré avant qu'on ait pu en placer un seul dans le musée des technologies galactiques. Quel dommage ! Ils étaient peut-être conçus pour une poignée d'individus dominants, mais ces habitats artificiels ont mobilisé toute l'ingénierie humaine. Ouais, franchement, quelle désolation de voir tous ces riches qui s'ennuient dans leur luxueuse villa flottante. Oh, c'est tellement voyeur ! Mais ces gens ont des caméras partout chez eux. Pourquoi, si ce n'est pas pour qu'on les regarde ?
Pour finir, on peut dire que malgré certaines critiques et questionnements qu'il soulève, on aime bien ce roman pour les réflexions qu'il amène. Sa devise « la paix n'est pas l'objectif, c'est la solution » fait même preuve d'une certaine radicalité dans le monde actuel. Et par ailleurs, l'autrice a enrichi son roman d'une bibliographie choisie dans laquelle elle présente quelques textes assez divers qui traitent des recherches en sciences de la paix, de regards féministes sur la question des conflits, des faux arguments contre les migrants ou encore des raisons des guerres et conflits armés de notre époque. Et c'est vraiment chouette parce que pour chaque texte, elle explique dans une phrase ce qui l'a intéressé dedans. C'était le 36e épisode de Vortex et Rotative. On vous a parlé du roman « Le premier jour de paix » d'Elisa Behram, publié chez l'Atalante en 2023, et ce grand format compte 192 pages.
En juin 2026, une version poche est prévue, toujours chez l'Atalante.
L'émission est montée avec des bouts de musique de la musicienne US-américaine Amy Waters.
On se retrouve dans 2 mois pour un nouvel épisode de Vortex et Rotative. Au revoir.
Au revoir et à la prochaine.
Vortex et Rotative. Sur Radio Dragon et Campus Grenoble.